Cop de l'action. En réalité, pas tant que ça, mais c'est un mot d'ordre, c'est un slogan pour motiver tout le monde. En réalité, cette COP, elle a un double objectif. Le premier, c'est de maintenir la dynamique qui a été lancée à Paris et qui ne doit pas retomber, en particulier parce que les années qui viennent sont des années très importantes. La fenêtre d'action, si on veut limiter l'augmentation des températures bien en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degrés, elle est très courte. Et donc, les années qui viennent sont déterminantes. Donc, l'objectif premier de la COP, c'est un objectif politique. L'objectif second, il est plus technique, c'est de préparer la mise en application de l'accord de Paris qui aura lieu à partir de 2020. De ce point de vue, on a un petit peu plus de temps, mais il y a un certain nombre de détails pratiques à arrêter. Cela va se faire à partir de cette COP et durant les COP qui viennent.
Alors les chantiers pour mettre en œuvre l'accord de Paris sont énormes. Une des principales difficultés, c'est de trouver le mode opératoire qui convienne à tous les pays qui signataires. Sur quelles questions cela risque de poser le plus problème selon vous ?
À cette COP qui se déroule sur le territoire africain, risque d'être des questions un peu conflictuelles. La question des financements, les financements climatiques et la question de ce qu'on appelle les pertes et préjudices. C'est un mécanisme qui a été créé à Varsovie. À ce stade, c'est essentiellement un mécanisme d'échange d'informations, de collaboration, de définition de bonnes pratiques. L'accord de Paris a fait sien ce mécanisme qui, donc, à partir de 2020, fonctionnera dans le cadre de l'accord de Paris. Tandis que la décision qui a été adoptée à Paris précisait, à la demande des pays du Nord, qu'aucune compensation financière, économique, ne pourrait être obtenue par les pays, par n'importe quel pays, mais bon, on vise les pays du Sud, au titre de ce mécanisme pertes et préjudices. Les pays du Sud, eux, voudraient que ce mécanisme évolue en mécanisme, effectivement, de compensation des dommages et des préjudices subis en raison des changements climatiques. Donc c'est l'un des gros enjeux de la COP et c'est un sujet sur lequel il y a des conflits très forts entre les pays du Nord et les pays du Sud.
Autre sujet que le financement et autre défi, c'est comment vérifier que les États respectent leurs engagements. Est-ce qu'il y a plusieurs idées qui s'opposent et qui vont être débattues à la COP22 ?
Oui, tout à fait. C'est aussi un des grands sujets à l'ordre du jour de la COP. Sachant qu'il est fort probable qu'aucune décision ne sera prise lors de la COP, mais on a encore, disons, un an ou deux pour finaliser le mécanisme de transparence et le mécanisme de contrôle du respect par les États de leurs obligations, qui est un mécanisme essentiel, surtout à partir du moment où finalement l'accord de Paris est composé de contributions nationales déterminées nationalement par les États. La raison d'être de l'accord devient véritablement d'assurer la transparence de ces efforts nationaux, leur comparabilité aussi pour qu'on puisse vérifier sur quelle trajectoire d'émissions nous trouvons et de réchauffement nous nous trouvons. Donc évidemment sur ce point vont s'opposer des visions différentes des mécanismes de transparence, des mécanismes qui peuvent être plus ou moins transparents, qui peuvent être plus ou moins contraignants, avec un rôle plus ou moins important d'experts indépendants. Donc tout cela devra être tranché, encore une fois, pas forcément cette année, mais ce sont les négociations qui sont en cours.
Vous l'avez dit, de nombreux experts disent que limiter le réchauffement à 2 degrés ne suffit pas. Est-ce que cet objectif peut donc être revu pour la COP22 ?
Bon, les États peuvent à tout moment revoir leur contribution nationale, c'est ce qui est prévu dans l'accord de Paris. En réalité, ça ne se fera probablement pas lors de la COP22. En revanche, c'est en 2018 qu'un rapport a été commandé au GIEC, qui devra rendre en 2018 un rapport sur les conséquences d'un réchauffement supérieur à 1,5 degré. Parce que finalement, à partir de Copenhague, on était vraiment fixé sur les 2 degrés et les rapports du GIEC semblaient considérer que 2 degrés étaient sécurisants pour la planète et pour ses habitants. Et en réalité, ces 2-3 dernières années, de plus en plus de scientifiques ont considéré que 2 degrés n'étaient pas sécurisants, qu'il fallait être bien en dessous de 2 degrés et le plus proche possible de 1,5 degré. Donc cet objectif des 1,5 degrés est finalement monté en puissance assez récemment. Mais à Paris, il a été considéré qu'on n'avait pas assez d'éléments pour se décider. Donc il est dans l'accord de Paris, cet objectif des 1,5 degrés, mais il est plus aspirationnel que objectif réel. L'objectif réel, c'est dans l'accord, c'est bien en dessous de 2 degrés. Toutefois, ce rapport a été commandé au GIEC pour 2018, pour qu'en 2018, les États aient un point précis, synthétique et clair, des conséquences région par région d'une augmentation supérieure à 1,5 degré. À la suite de cela, lors de la COP, il y aura un dialogue politique qui se déroulera et on espère, on imagine que les conclusions du GIEC amèneront les États à rehausser le niveau d'ambition de leur contribution nationale.
Donc ce sera en 2018. Pour parler d'une COP 22 réussie, à quoi doit-on aboutir à la fin de ces deux prochaines semaines selon vous ?
Alors, je pense qu'elle sera réussie si ce qu'on appelle maintenant l'esprit de Paris continue, c'est-à-dire si on continue de rester dans un esprit coopératif, de dialogue positif, comme ça a été le cas à Paris, c'est ce qui a permis que l'accord de Paris soit finalement adopté et qu'il n'y a pas un retour vers des crispations et une crispation sur les souverainetés nationales, sur les égoïsmes nationaux, comme on avait pu le voir lors des COP précédentes, qui étaient des COP généralement extrêmement tendues. Donc je pense que cette COP est un test pour voir si l'esprit de Paris peut effectivement se maintenir au-delà de Paris.